France Culture.
Question d'islam par Aleb Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de la religiosité des musulmans, tout particulièrement des jeunes musulmans de France. Il y a un état des lieux du rapport avec, on devrait dire, l'islam et avec l'islamisme des musulmans, toujours de France, parce que récemment, il y a de cela déjà un mois, un certain sondage a créé la polémique. Nous ne voulons pas taire les choses, au contraire, il faudra en parler, mais d'une manière sereine, apaisée, distanciée, froide. Et il n'y a pas mieux que d'évoquer ces sujets avec ceux qui savent. Et j'ai grand plaisir d'accueillir Tariq Yildiz. Tariq Yildiz, bonjour.
Bonjour.
Merci Tariq Yildiz de nous donner de votre temps, de nous faire l'amitié de venir nous expliquer des choses, ici même à l'antenne, mais surtout aux auditrices et aux auditeurs. Vous êtes un sociologue reconnu, vous êtes auteur de nombreux ouvrages et il y en a un particulièrement qui a défrayé la chronique. C'est celui qui s'intitule « De la fatigue d'être soi au prêt à croire ». C'est un ouvrage qui est devenu une référence maintenant. Alors, ma première question, elle est relative à ce sondage. Il ne s'agit nullement dans la vie, lorsqu'on a de la fièvre, de casser le thermomètre pour éluder oublier la maladie. En revanche, tout particulièrement ce sondage a été l'occasion de vives polémiques à telle enseigne que 4 associations ont porté plainte, il y a eu un dépôt de plainte. De l'autre côté, le directeur général de l'Institut qui a effectué le sondage a à son tour aussi déposé plainte. Et puis des chercheurs, on en a au moins 4, Franck Frégosi pour les nommer, hein, les 4, Patrick Simon, Vincent Tibéri, c'est comme ça qu'on prononce me semble-t-il, et puis Hawass Seniger, dénoncent des biais méthodologiques majeurs et Hawass Seniger parle même d'une mécanique du soupçon. Alors, selon vous, cher Tariq Yildiz, le sondage reflète-t-il ce que vous constatez déjà dans vos travaux ?
Alors, tout d'abord, je tiens quand même à préciser qu'il y a des biais dans tous les sondages, pas seulement dans ce sondage. Bourdieu en avait parlé en son temps, mais ce n'est pas le seul. Un sondage, ce n'est pas une étude sociologique. Dans un sondage, on isole des questions, on a une certaine manière de poser les questions, ce qui peut générer un certain type de réponse, et donc il y a des biais. C'est vrai en général, et c'est vrai également pour ce sondage. Il faut le savoir. Ensuite, est-ce que ça vient confirmer un certain nombre de constats ? Moi, je dirais que ça dépend. Ça dépend de la perspective, c'est-à-dire que lorsqu'on parle des pratiques religieuses au sens large, je trouve que on a isolé les musulmans du reste, alors qu'il y a un mouvement assez général de sécularisation qui ne se vérifie pas finalement dans beaucoup d'autres populations, et que on a mis parfois sur le même plan dans les interprétations des pratiques religieuses. Par exemple, jeûner le mois du Ramadan, avec d'autres choses qui ressemblent plutôt au développement d'une contre-société, qui ne relève pas tellement du religieux, ou en tout cas qui relève d'une autre nature, c'est-à-dire quand je refuse de parler à une femme ou de lui serrer la main, vous voyez bien que ce n'est pas de la même nature qu'une pratique religieuse. Et en ce sens, je trouve que dans les interprétations, dans les commentaires, on a mélangé les deux phénomènes, ce qui nuit beaucoup à la compréhension des choses. Dans mes études, moi je constate effectivement que dans une certaine jeunesse qui n'est pas que musulmane, dans une certaine jeunesse qui est d'une certaine catégorie socio-économique qui vit dans certains quartiers, etc., on a effectivement le développement de pratiques rigoristes ou intransigeantes avec le reste de la société. Ça, je le constate. Et ce n'est pas moi qui vais nier certaines réalités. J'étudie la question depuis très longtemps.
Je rapporte, comme le ton général de l'émission n'est jamais, en tout cas ça ne sert à rien, à la polémique, et d'ailleurs d'une manière générale aussi, les discours incantatoires ne font jamais avancer les choses, les discours imprécatoires ne règlent rien, donc je ne nommerai pas les éditorialistes, mais j'ai entendu l'un d'eux parler d'une gravité, d'une évolution mortifère, avec l'importance des musulmans dans le paysage religieux français, qui a augmenté d'une manière lente, mais continue ces 40 dernières années. Il y en a un autre qui parle de l'intégrisme, sans vouloir le définir plus exactement, qui a gagné l'esprit d'un musulman sur trois. Donc, il y a de quoi, finalement, avoir peur.
En réalité, vous voyez, tous ces commentateurs ont analysé, ont mis en lumière seulement une partie des réponses. Je vais vous donner un exemple très concret pour qu'on comprenne un petit peu de quoi il s'agit. On a par exemple posé la question aux gens de savoir s'ils étaient pour ou contre la charia. Vous voyez, c'est pas exactement la même chose de poser ça comme question, ou de demander si jamais demain tu voles dans un supermarché, est-ce que tu acceptes qu'on te coupe le bras ? On va pas avoir le même type de réponse. C'est-à-dire que dans la manière de présenter les choses, de poser les choses, on a différents types de réponses. Et effectivement, dans les réponses, on voit qu'il y a eu une sorte de réflexe identitaire chez certains. Ça ne m'étonne pas.
Avec cette idée que la charia veut dire nécessairement et systématiquement appliquer des châtiments corporels, des mutilations, etc.
Bien sûr, parce qu'on n'a pas fait l'effort de définition de manière précise et sérieuse. C'est pareil pour le mot islamisme. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Moi, j'ai une idée, mais enfin, vous voyez, déjà, entre chercheurs, on n'est pas d'accord. Chacun y va de sa définition. Il faut poser les choses quand on pose des questions à des jeunes gens qui savent pas trop de quoi il s'agit.
Et donc, nous avons un islamiste qui siège à l'OTAN.
Ah bah oui.
Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même un peu de cohérence et un peu de sérieux.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, vous voyez, il y a une question clé méthodologique. J'aime pas toujours revenir à la méthodologie, mais parfois c'est important pour bien remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que il faut un travail sérieux. Et encore une fois, j'insiste beaucoup sur le fait que c'est pas parce que on parle de ça, de méthodologie, qu'on va nier des phénomènes qu'on constate. Oui, il y a des phénomènes. Et oui, il y a des jeunes gens qui aujourd'hui s'opposent en contradiction, en opposition. Oui, ça pose des problèmes. Oui, il peut y avoir parfois dans certains lieux des développements quasiment de contre-société, en tout cas de défiance vis-à-vis de l'ensemble de la nation. Ça existe, c'est vrai, mais attention à ne pas tout mélanger. C'est pas la même chose de dire ça que de dire qu'aujourd'hui l'ensemble des musulmans sont dans cet état d'esprit et de le prouver par une augmentation de la pratique religieuse. C'est deux choses différentes.
Avec une autre confusion, on est là dans les généralités, dans ce long préambule, et nous verrons des exemples précis tout au long de l'émission, Tariq Yildiz. D'abord, le premier mélange, et je veille à le préciser à chaque fois, c'est qu'immigration et islam ne sont pas tautologiques. Ça s'entrecoupe, il y a de larges pans, il y a des questions dites d'intégration, et curieusement, lorsqu'on n'était pas intégré, on avait une certaine pratique ou une observance plutôt discrète, notamment en ce qui concerne le jeûne, et paradoxalement, pour certains, c'est l'intégration de ces immigrants qui fait qu'il n'y a plus aucune gêne à afficher une certaine observance.
Alors ça, c'est tout à fait juste, et finalement, ça s'explique avec l'évolution des pratiques. Mais ce qui aussi est intéressant de voir, c'est que les problèmes qui se posent en matière d'intransigeance, souvent sont le fait de jeunes gens qui sont nés en France, donc qui sont le produit de la société française, qui sont allés à l'école en France, qui étaient d'ailleurs dans leur jeunesse généralement assez superficiellement religieux, et qui n'appliquent pas toujours l'islam des pères, ce qu'on a appelé l'islam des pères ou des grands-pères, c'est-à-dire de la société d'origine des parents, voire des grands-parents. Non, c'est un autre islam, une autre religiosité qui s'est formée en France, qui s'est formée à travers le rapport qu'on peut avoir entre différents membres de la communauté, dans le rapport aux institutions, dans une forme de défiance. Donc c'est un sujet très français aujourd'hui, ce qui nous préoccupe. Ce serait facile de dire « Ah, on a juste importé des gens ». Et puis on a un problème avec ces gens-là qu'on a importés. L'étude, paradoxalement, vous voyez, montre que, justement, les premiers arrivants étaient effectivement dans une autre démarche. Et qu'aujourd'hui, les questions qui se posent sont pour des gens qui sont le produit pur et dur de la société française.
Oui, et donc ça se justifie, selon vous, l'appellation « réislamisation ». Le sondage met en effet en exergue un lien entre cette réislamisation et la tentation islamiste. Elle n'est pas bien définie, mais nous nous entendons par l'islamisme, au moins cette idéologisation exacerbée des préceptes religieux islamiques pour d'autres fins que spirituelles, et notamment pour ce contre-projet social et politique que vous avez évoqué.
Oui. Alors, effectivement, vous voyez, ce mot de réislamisation est assez amusant parce que on a l'impression que ce sont des jeunes qui étaient effectivement plus religieux puis qui seraient revenus à l'islam. Et quand on observe la trajectoire de ces personnes-là, on voit de manière très nette qu'il y avait une religiosité très superficielle dans les premières années. Un islam plutôt qu'on pourrait qualifier de discret qui est transmis par les parents et autre chose qui se crée à partir de l'adolescence. Donc, vous voyez, c'est un abus de langage de parler de réislamisation. En revanche, il y a une forme de rapport au religieux qu'il faut bien constater qui est très présent au sein de la jeunesse, dans certains quartiers notamment, qui probablement se développe. On a quand même du mal à avoir des chiffres très précis, hein. Mais effectivement, il y a des indicateurs qui montrent qu'il y a une forme d'intolérance à l'altérité parfois, qui se conjugue avec des situations socio-économiques, avec tout un tas de choses, hein. C'est assez classique en sociologie, c'est jamais isolé, hein, le facteur religieux. Mais il a son importance, et donc on voit bien qu'il y a quelque chose là, un phénomène que l'on doit analyser en propre, sans avoir ce fantasme d'une sorte de continuité historique de tous les musulmans qui seraient frères depuis toujours, avec une continuité historique très nette. C'est pas du tout ce qu'on constate.
Frères au sens du frérisme, oui, puisque oui. Le vocable est consacré désormais. Diriez-vous aussi que cette religiosité mise en avant est ou serait, entre autres, pas uniquement, le refuge politico-identitaire d'une certaine jeunesse dont elle pense, à tort ou à raison, que sa citoyenneté lui est déniée et il ne lui reste plus que d'aller vers une citoyenneté supranationale de référence aux décences religieuses.
Moi, je crois qu'il y a une dimension identitaire extrêmement forte dans ce phénomène. Alors, je suis pas convaincu que ce soit parce qu'ils considèrent que la citoyenneté n'est pas au rendez-vous, qu'on leur accorde pas, etc. Mais je crois plutôt qu'il s'agit de quelque chose de l'ordre du manque de repères, qui n'ont pas assez de repères, qui n'ont pas assez de repères parfois dans un point de vue familial, pas assez de repères transmis peut-être par l'école, pas assez de repères dans la société en général. Et ça va être des jeunes gens qui vont tester les limites de la société, souvent. Et on va les tester, on va les tester. Et à un moment donné, il y a cette vision du religieux qui est là et qui apporte des réponses, même à des questions anodines. C'est ce que j'ai appelé le prêt-à-croire, vous voyez, comme le prêt-à-porter. J'ai une question, il y a une réponse. Et on fait un peu l'économie parfois de la spiritualité qui est dans le religieux pour avoir des choses assez simples. Le bon musulman en 10 points, quoi. J'ai le droit de faire, j'ai pas le droit de faire. Ça a le mérite de la simplicité et de remplir un vide qui peut être parfois flagrant. Un vide, moi je dirais, de culture au sens propre du terme.
Toujours avec cette idée que les positions médianes, l'équilibre, ça engage quand on est au milieu d'un pont, surtout si les sujets à des vibrations, il est beaucoup plus facile d'aller s'agripper au parapet. Donc, il est toujours facile d'aller vers un extrême, l'un ou l'autre, généralement. Et là, vous pensez que cette jeunesse, en manque de repères, avec des failles identitaires, l'absence de l'autorité du père, des fêlures morales importantes, surtout l'échec scolaire, toutes ces choses-là, alors d'aucuns vont dire que on est dans l'excuse sociologique.
Non, mais en disant ça, on essaie d'expliquer un phénomène. Après, chacun peut considérer qu'il y a une responsabilité individuelle, mais on est dans l'explication d'un phénomène. C'est-à-dire que on a quand même toute une population qui se retrouve dans cette situation, qui se retourne vers un certain type de religieux avec une forme de radicalité, avec une forme d'intransigeance. Certains même, alors attention, je ne généralise pas, mais dans certains cas, on a même des individus qui tombent dans la petite délinquance et qui sont absolument pas religieux. Et à un moment donné, ils rencontrent le religieux. Et c'est une certaine forme de religiosité, en réalité, qui est simple, qui a ce mérite de la simplicité, d'un côté un petit peu extrême, un petit peu intransigeant. Et on est dans un âge où on respecte ce qui paraît fort, ce qui paraît puissant, ce qui paraît ne pas se poser 15 000 questions. On n'est pas dans le doute permanent. Et quand on n'a pas beaucoup de doutes, on n'est pas très tolérant.
Déjà, au niveau des chiffres, je reprends ma formule habituelle, ce sont des êtres fragiles qui disent n'importe quoi sous la torture. Il suffit un peu qu'on les triture et qu'on les presse, au sens premier du terme, pour leur faire dire n'importe quoi. Le nombre de musulmans tantôt oscille entre 7 et 10%, tantôt est minoré, tantôt est exagéré. C'est selon ce dont on a envie par la suite, soit minorer leur importance, soit faire peur par leur grand remplacement. Mais selon ce sondage-là, 7% ne paraît pas quelque chose qui relève du grand remplacement.
Non, en effet. Après, ce qui peut, quand on fait des études sociologiques et on s'intéresse aux autres populations qui ne sont pas musulmanes dans leur perception, il est vrai que les inquiétudes qui arrivent souvent, c'est sur la question de la grande concentration dans certaines zones. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va concentrer en région parisienne, par exemple, ou dans des banlieues dites difficiles, que ce soit en région parisienne, en région lyonnaise, etc. Et le paysage de certaines villes, effectivement, va changer. Je veux dire, on pourrait citer quelques villes, bon, j'ai pas envie d'en citer particulièrement, mais vous voyez l'idée, c'est-à-dire qu'il y a une concentration qui s'explique tout à fait hein, par les flux migratoires à certaines époques, et puis les gens qui se sont installés là, voilà, il y a quelque chose d'assez naturel à cela en réalité, mais aujourd'hui, effectivement, on voit quand même que dans certaines zones, on a une forme d'homogénéité dans cette dimension-là. C'est pour ça que je pense qu'il faut distinguer les chiffres de manière très globale, le sentiment qu'on peut ressentir dans certains quartiers, dans certaines zones, dans certaines villes, et qu'il ne faut pas nier, parce que effectivement, vous voyez, il faut se mettre aussi à la place d'individus qui ont toujours vécu dans un certain bain culturel et qui voient leur ville totalement transformée. Ça joue aussi, c'est une question d'identité. Alors, il faut, et quand je dis que ça joue, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils rejettent complètement les autres, etc. Mais c'est aussi pour comprendre que l'identité, c'est pas un gros mot, et que effectivement, on peut se poser des questions, qu'on voit que ses voisins changent, et que chez certains, ça peut être déstabilisant. Il faut savoir le reconnaître.
Oui, mais ça se règle peut-être avec cette idée, à mon avis, qu'il faudrait que les uns et les autres, d'une manière apaisée, reconnaissent. Une identité, c'est dynamique. Si j'emprunte la métaphore à la géologie, il y a une roche mère qui se trouve être chrétienne dans l'histoire, et puis il y a une sorte de sédimentation avec des apports enrichissants. Il y a l'apport judaïque, il y a d'autres rapports, et là, si on remonte uniquement au Second Empire, on va pas remonter à l'émirat de Narbonne, il y a un apport islamique qui, en principe, devrait être sans trop de heurts, mais malheureusement, ça fait déjà 4 décennies. Il y a certes la décennie noire ou au-delà, depuis les assassinats de Mera jusqu'à l'assassinat du criminel comme auteur, Mera, jusqu'à l'assassinat de Dominique Bernard, qui ont fait que la nation a été traumatisée.
Bien sûr.
Donc, raison de plus pour ne pas encore faire peur par des choses dont le biais méthodologique pose un sérieux problème.
Oui, oui. Mais vous voyez, c'est-à-dire que quand effectivement on fait la liste d'individus qui ont parfois tué au nom de Dieu, ou alors les comportements déviants d'un certain nombre d'individus qui se réclament musulmans, on comprend aussi certaines tensions qui peuvent apparaître dans une société. Moi, je pense qu'il faut les affronter, les voir, mais qu'il faut bien distinguer le religieux des comportements déviants. Le comportement déviant, s'il n'y en avait pas, je pense que ça poserait beaucoup moins de problèmes de parler d'islam en France, en réalité. Ce serait beaucoup plus apaisé. Mais le fait est qu'il en existe. Alors, est-ce qu'on peut tout mettre sur le dos de la religion ? Non, puisque c'est quelque chose de très complexe, c'est un phénomène sociologique, très classique. Vous voyez, c'est quand même rarissime de voir quelqu'un qui est bourgeois, qui gagne très bien sa vie, qui est parfaitement intégré dans la société, qui devient petit délinquant. Hein. Vous voyez, bon, ça peut arriver, par exception, mais enfin, c'est quand même très exceptionnel. Donc on ne peut pas isoler le facteur religieux des autres facteurs.
Alors nous mettrons de côté ceux qui disent non, mais intrinsèquement et d'une manière organique, structurelle, cette tradition religieuse est belligène et elle a des écritures de facture martiale, et que l'on soit éduqué ou pas, instruit ou pas, il y a cette tentation à la fois à la violence, et d'ailleurs le sondage parle de réislamisation et de tentation islamiste.
Oui, bon... Souvent, j'ai l'habitude de dire que on s'intéresse aux dogmes, mais on ferait mieux de s'intéresser aux individus. C'est-à-dire que je ne veux pas rentrer dans un relativisme absolu. Oui, effectivement, il peut y avoir des textes assez violents, tout à fait, mais les textes influencent les hommes et l'inverse est également vrai. Notre regard sur les textes est différent selon notre position économique, selon notre position sociale, selon la qualité de notre vie, etc. Donc on ne peut pas résumer des gens au texte auquel ils croient. Et c'est comme ça, c'est l'histoire de l'humanité. Ce serait trop simple, sinon on aurait des clones partout. Sinon, un individu qui vit en Indonésie aurait exactement la même pratique, la même vision de la vie que quelqu'un qui vit en Arabie Saoudite, que quelqu'un qui vit en Turquie, quelqu'un qui vit en Maroc, quelqu'un qui vit dans une banlieue française. Et ce n'est pas le cas. Et heureusement que ce n'est pas le cas, puisque l'être humain est complexe et riche, et on a beaucoup d'influences différentes. Et donc notre regard est différent sur le texte. On ne peut pas résumer un individu, un peuple sur un texte. Et donc pour moi, ma conviction, c'est que au lieu de rentrer dans des interprétations religieuses, ça, il faut le laisser soit aux théologiens, soit aux chercheurs. Je pense qu'on ferait mieux de s'intéresser aux individus.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam, questions au pluriel d'ailleurs, avec le sociologue Tariq Ildiz, auteur notamment du livre intitulé « De la fatigue d'être soi ou prêt à croire ». Et aujourd'hui, nous parlons d'une manière générale de la religiosité des jeunes musulmans, de leur rapport à l'islam. Quand on a un rapport, une relation, c'est toujours avec, en principe, à l'islam et à l'islamisme, vocable qu'il faut toujours, en principe, définir. Et j'ai envie de vous dire, Tariq Yıldız, peut-on dire que, d'abord, est-ce que chez les jeunes gens, quels qu'ils soient, garçons et filles, la pratique est, par rapport aux parents, paraît-elle, est-elle plus conservatrice?
Clairement, oui. Moi, c'est ce que j'ai toujours observé dans mes dernières études. Ce qui battait en brèche l'idée d'une pression des parents pour que les jeunes soient plus religieux, j'ai d'ailleurs souvent constaté l'inverse. Je vous donne un exemple, une jeune fille qui mettait la pression à sa mère pour qu'elle porte le voile, par exemple. Ça, je l'ai beaucoup plus constaté que l'inverse. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette dynamique d'une certaine jeunesse qui a vécu en France, qui est née en France, qui est allée à l'école en France et qui porte la religion comme une sorte d'étendard identitaire, un peu en contradiction, comme si c'était quelque chose d'un petit peu rassurant, quelque chose sur quoi on se raccroche pour se donner une identité, une histoire, etc. Et parfois, il y a beaucoup de conflits intrafamiliaux sur la pratique religieuse. Des parents qui vont reprocher à leurs enfants d'être trop rigoristes, si j'ose dire, en leur disant « Non, mais tu sais, ton grand-père, il faisait pas ça. T'es pas meilleur que ton grand-père. » Bon, et ça peut créer des tensions comme ça. C'est toute une génération, évidemment, on parle de généralité, là, il y a beaucoup de subtilité, mais enfin, on le constate quand même avec une certaine fréquence, et je trouve que ça nous pousse à revoir nos schémas habituels de dire « Ah, regardez, il y a une pression familiale, et voilà ce que ça donne chez les jeunes. » Non, on a un rapport inversé en général.
Oui, vous avez anticipé, j'allais laisser cette question un peu plus tard dans l'émission, sur le voilement des femmes. Et j'ai envie de dire qu'au nom même des résultats et en vertu des chiffres de ce sondage, il y a une autre lecture qu'il faudrait mettre en avant. En 2003, les femmes de plus de 50 ans était 35% à se voiler, elles ne sont maintenant que 16%. Donc il y a une tendance dite baissière, si je puis dire. Et puis, toujours dans ce même registre, 58% des sondés EES, donc des femmes se déclarant musulmanes selon la méthode du sondage lui-même, disent qu'elles n'ont jamais porté le voile de leur vie. 5% disent oui, je le porte, mais pas sur le lieu du travail, ça c'est vrai. 7% disent rarement, d'une manière occasionnelle, à telle ou telle fête religieuse par exemple. Et 11% se sont dévoilés et ne le portent plus. Donc celles qui le portent systématiquement ne sont que de l'ordre de 19%. Mais le sondeur en question et la lecture qu'on en fait, c'est que on a mis même celles qui le portent occasionnellement à l'occasion des fêtes religieuses font partie de celles qui s'affichent d'une manière voilée.
Oui, absolument. Vous voyez, ça, c'est pour ça que, bon, quand on prend le temps de lire l'enquête dans le détail, on le voit, c'est indiqué, c'est pas passé sous silence. En revanche, dans la communication qui a été faite dans la reprise, effectivement, il y a certains chiffres qu'on n'a pas entendus, il y en a d'autres qu'on a mis vraiment en avant, selon ce qu'on était censé pouvoir ou vouloir démontrer. Ça, c'est une réalité. Mais vous voyez, sur ce phénomène, là encore, c'est un phénomène qu'on peut analyser, sociologique comme un autre, sur la manière de pratiquer sa religion, c'est intéressant. Mais je trouve que si on devait identifier quelque chose de vraiment inquiétant, c'est plutôt dans le lien avec les autres, avec l'altérité. Finalement, qu'une personne, là on a parlé du port du voile, donc ça peut effectivement parfois poser un problème, mais là on voit que...
Parce que c'est visible,
tout à fait.
Et les citoyens français, quels qu'ils soient, perçoivent cette présence-là comme à la fois inquiétante, oui, angoissante, anxiogène, oui, et le fameux grand remplacement est perceptible là-dessus.
Oui, tout ça, et encore une fois, les réactions du reste de la société sont un ensemble de choses. il faut essayer de comprendre ça. Moi, ça ne me choque pas spécialement, mais ce qui me choque davantage, où je me dis il faut qu'on le traite avec davantage de rigueur et de sérieux, c'est quand on a des résultats qui nous disent qu'effectivement on a un nombre de plus en plus important d'individus qui refusent de serrer la main à une femme, par exemple. Là, on peut se dire ok, ça remet en cause notre vivre ensemble. Mais je ne mets pas sur le même plan ça et des chiffres qui me disent que les jeunes musulmans prient davantage. Vous voyez, s'ils prient davantage chez eux ou à la mosquée, qu'est-ce que ça remet en cause en fait pour notre vivre ensemble, pour la société ?
Parce que l'idée qui sous-tend cette inquiétude, c'est qu'une observance stricte et de plus en plus ostentatoire mène forcément à l'islamisme, sans le point d'interrogation. Donc, c'est ça l'idée, la crainte, et c'est qu'on va glisser d'une stricte observance et d'une orthopraxie vers l'islamisme, qui lui-même va dégénérer, puisqu'on est sur une pente glissante, vers l'extrémisme violent.
Oui, exact. Et vous voyez, il faut avoir un certain recul et une certaine rigueur pour faire la part des choses, parfois. Souvent, je dis à mes étudiants, vous voyez, pour faire la différence entre une corrélation et une causalité, il y a 80% des gens qui décèdent qui ont fait un passage à l'hôpital la semaine avant. Ça, c'est une corrélation, mais vous voyez bien que c'est pas parce qu'ils sont allés à l'hôpital qu'ils sont décédés. Et dit comme ça, ça semble évident. Mais en réalité, dans beaucoup de phénomènes sociaux, il y a un peu ça qui se joue. C'est-à-dire que on voit des corrélations, on voit que par exemple la personne qui est passée à l'acte, qui est très qui a commis un acte délictueux au nom de sa religion ou autre, ou même un crime, avait cette pratique. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'il avait cette pratique qu'il a basculé? Vous voyez, c'est trop simple de le résumer à ça. Parce qu'il y a énormément d'autres facteurs. Et encore une fois, c'est pas du tout pour minimiser quoi que ce soit.
Et le criminel de la promenade des Anglais qui a été loué à un camion pour aller auxir ses compatriotes et les autres, quel a été le lien de pratique ou le degré de pratique avec la tradition religieuse?
Mais vous voyez, très...
Et des exemples comme ça, on peut donner de ceux qui étaient versés dans la pratique religieuse et ceux qui sont détachés totalement. Alors on va parler d'une forme de dissimulation, d'hypocrisie, mais ça devient une sorte de régression à l'infini. Oui. Mais c'est pour aller dans votre sens.
Tout à fait. En revanche, là où il y a un point commun, il y a un point commun sur le fait d'être intolérant vis-à-vis de l'altérité. Vous voyez, moi je préfère...
Et notamment l'altérité confessionnelle.
Absolument. Moi je préfère qu'on s'attaque à ça. Enfin, qu'on regarde ça. Ça me paraît légitime. Et vous voyez, en disant ça, on minimise rien du tout. Parce que nous, notre but, c'est pas de défendre les gens qui commettent des crimes. Hein. Enfin, c'est pas du tout ça. Au contraire. Mais essayons de comprendre ce qui se passe. Et essayons de voir les points communs. Ce sont des gens qui vont adopter un discours intransigeant, intolérant vis-à-vis de tout ce qui ne leur ressemble pas. C'est d'abord ça.
Ce qui est intolérable pour eux, c'est que l'on puisse ou que l'on ose avoir une autre conception du divin, oui, du religieux, etc., que la leur, y compris au sens large de ceux qui sont de leur... alors, pas obédience, mais en tout cas de leur confession.
Absolument, absolument. Pour moi, c'est le point clé qu'on passe sous silence et qui est pourtant très grave. Mais c'est pas facile à appréhender. Et on préfère s'attacher à d'autres indicateurs de religiosité en disant, regardez, les jeunes prient de plus en plus, regardez, ils observent de plus en plus le jeûne du Ramadan, etc. Ok, ça dit également quelque chose de la société. Ça dit aussi quelque chose d'une sorte de retour du religieux au sens large. Ça dit quelque chose de la fin d'une sorte de sécularisation observée ou annoncée par Auguste Comte ou par Weber, oui. Donc ça, il faut aussi le voir. Mais sur les comportements violents, il faut bien comprendre que ça va au-delà de cela. Ça va au-delà de la simple pratique religieuse. On est sur le rapport à l'autre, qu'on nie en tant qu'individu dès lors qu'il ne pense pas comme nous.
Et à ce sujet, le rôle des imams, des hiérarques religieux, des dignitaires, des responsables et surtout des prédicateurs est fondamental pour ouvrir l'esprit à l'humain, à l'homme, quel qu'il soit, à l'être humain, Et on n'est pas seul dépositaire de la vérité, on n'est pas seul détenteur de l'absolu.
Oui, moi j'aime beaucoup cette phrase de Aaron, vous voyez, qui dit « de la tolérance naît le doute ». C'est vrai que, vous voyez, quand on doute de quelque chose, on devient plus tolérant, quand on est dans cette démarche-là. Et en tout cas, je ne parlerai pas des instances religieuses, des autorités religieuses, parce que c'est pas vraiment mon domaine. Mais en revanche, je pense que l'école a ce rôle-là, en tout cas.
Et l'éducation au sein de la famille.
Oui, l'éducation au sein de la famille. Bon, parfois, on n'a pas trop prise. Mais même lire un livre qui n'est absolument pas religieux, ça ouvre les horizons. Ça ouvre les horizons. Je sais pas, quand on lit Poil de carotte, par exemple, bah, ça nous apprend des choses sur l'empathie. Peut-être plus que des cours d'empathie. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a ce côté... La culture permet d'avoir une forme de tolérance, de voir autre chose. Et je crois qu'il y a une responsabilité collective de la société pour essayer de transmettre ça à tous les enfants, quelle que soit leur religion. Mais on a besoin de ça.
Alors il y a un point, Tariq, ils disent, qui me paraît être important, qui est passé sous silence. Je vous pose la question sur ce qui est peut-être un effet ciseau avec les résultats de ce sondage, et qui devrait être, à tout le moins, si le mot n'est pas fort dans ma bouche, plutôt satisfaisant, c'est la question de l'apostasie. Il y a un chiffre qui, me semble-t-il, est de la plus haute importance. Il faut le voir aussi dans son approche vectrice ou vectorielle ou finaliste. On est à 73% des musulmans interrogés qui estiment qu'un musulman a le droit d'abjurer sa religion et d'être un apostat.
Absolument, et ça a été très peu cité. Effectivement, on a ce chiffre de 73% qui peut paraître dans l'absolu...
Encore très en deçà de
c'est ça.
On devrait être à 100%.
On devrait être à 100%. Mais il est à comparer à un chiffre précédent, parce qu'on avait posé la même question en 1989, hein. D'ailleurs c'est cité dans l'étude, hein. Et on était à 44% seulement. On est passé de 44% de musulmans qui estiment qu'un musulman a le droit de rompre avec l'islam à 73% quand même. Donc il y a une évolution là qui est positive et qui effectivement n'a pas du tout été relevée, hein, ou très très peu par les médias.
Alors s'il devait y avoir un point de réjouissance, si j'ose dire, je mets le mot entre guillemets, c'est au moins cette tendance-là de laisser place davantage à la liberté de conscience et à la liberté de choisir sa tradition religieuse, de la garder si on l'a reçue en héritage ou de la choisir. Bon, ça paraît important. Maintenant, les questions relatives à l'islamisme, voire aux djihadistes, puisque maintenant le mot veut dire ceux qui se comportent d'une manière radicale, violente et extrémiste, il y a quand même que 45% qui désapprouvent totalement leurs agissements. On pourrait penser qu'il n'y en a pas beaucoup.
Oui, mais tout à fait. Alors ça, c'est vrai que, vous voyez, derrière la définition de certains termes, on a un problème. Je suis désolé de revenir dessus encore une fois, mais franchement, on ne peut pas faire comme si c'était évident pour tout le monde. On a aussi posé la question du takfirisme, vous en pensez quoi? Je ne suis pas certain.
Le takfirisme, pour nos amis auditeurs, c'est le fait de considérer l'interlocuteur, musulman au départ, comme un mécréant, puisqu'il n'agit pas selon les normes et les règles et le dogme voulu tel que les takfiristes eux-mêmes le perçoivent.
Voilà, exactement. Mais vous voyez, c'est quand même relativement pointu comme question. C'est-à-dire qu'il faut savoir de quoi on parle, etc. Donc, il y a des résultats qui donnent un certain nombre d'indications. Il faut pas les jeter à la poubelle. Il faut se dire qu'effectivement, dans une partie, particulièrement chez les jeunes, il y a des gens qui considèrent que, il faut pas condamner des actes qui sont tout à fait condamnables. C'est une réalité. Mais c'est vrai qu'avec ce sondage comme ça, en prenant un chiffre brut, on peut pas en faire grand-chose tout seul. Il faut le comparer à d'autres choses. Il faut voir quelle est l'évolution. Il faut voir comment est-ce qu'on a défini le terme. Il faudrait le compléter. Il y a eu quelques études dessus, heureusement, mais par d'autres études disons rigoureuse, sociologique, qui ne préjuge pas de ce qu'elles vont trouver, qui accepte d'attaquer la question pour nous donner davantage de billes pour que ce soit plus solide sur ce qu'on voit. Mais moi, en tout cas, dans mes recherches, ce que j'observe, c'est que il existe effectivement chez une partie de la jeunesse musulmane une frange qu'on pourrait qualifier d'intransigeante, de radicale. Ça existe. Mais là où j'insiste beaucoup, c'est de dire que le seul facteur n'est pas religieux dans ce cas de figure. Il y a aussi cette dimension idéologique, donc religieuse, mais elle n'est pas la seule, premièrement. Et deuxièmement, elle n'est pas. Il ne s'agit pas d'une transmission d'héritage des parents ou des grands-parents. Voilà. Et dernier élément, il ne s'agit encore moins de gens qui seraient sous influence d'imams, disons, qui est détaché par les pays d'origine, comme ce que j'ai pu lire ou entendre parfois. On disait, oulala, on va interdire à certains imams liés à certains pays de venir parce qu'ils corrompent la jeunesse, etc. Il faut bien comprendre que c'est l'inverse aujourd'hui.
C'est même interdit depuis janvier 2024.
C'est juste.
Il n'y a plus d'imam détaché. L'imamat détaché est interdit.
C'est juste. Mais voyez, les propos les plus radicaux, les plus en rupture qu'on entendait, c'était des gens qui venaient du CRU. C'était des gens qui venaient de France, qui parlaient parfaitement français, qui avaient fait leur classe ici et qui avaient une autre vision de la religion. C'est un peu simple, en fait, de voir comme ça. Ce serait plus pratique de dire finalement c'est l'étranger, on n'a qu'à couper l'étranger et puis c'est réglé. On a quelque chose qui se passe chez nous, là. Il faut savoir le voir.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons avec Tariq Yildiz de la religiosité des jeunes musulmans et puis de la réislamisation de cette jeunesse musulmane, du rapport des musulmans de France à ou avec l'islam et à l'islamisme. Pour cette dernière partie, Tariq Yildiz, vous qui êtes sociologue, vous enseignez à Sciences Po Paris, vous êtes l'auteur de La fatigue d'être soi, prêt à croire. Il y a aussi un point qui est passé quasiment sous silence, ou du moins on n'en fait pas la même lecture, c'est la fameuse endogamie intra-religieuse. Elle est, selon les chiffres, à 40%, mais il y a une sorte de mixité, à supposer qu'il faille encore parler des origines. On a des musulmans portugais qui épousent des musulmanes ou des musulmans bosniaques, des musulmans maghrébins, ils ne sont pas systématiquement, tous les maghrébins ne sont pas tous musulmans, mais en tout cas des musulmans maghrébins qui épousent d'autres musulmans ou musulmanes d'une autre ascendance ou une autre nationalité. Donc, il y a une mixité ethnique ou interethnique dans une endogamie à 40% religieuse.
Oui, alors c'est juste, c'est vrai. Là encore, ça, je trouve que ce sont des symptômes, des phénomènes à prendre comme ça, des sortes d'indicateurs pour voir où est-ce qu'on en est à un moment donné. Ce qu'il est intéressant de faire, c'est de pouvoir comparer ça à d'autres chiffres. Bon, on s'intéresse beaucoup à la religion, mais même pas que à la religion. Vous voyez, il y a une sorte d'endogamie par rapport au niveau social et professionnel aussi. Et ça démontre que on a en effet une société qui avec des sortes de blocs. Un ancien ministre de l'Intérieur parlait de gens qui vivaient côte à côte, etc. Il est vrai que on observe ce type d'endogamie, mais pas uniquement en ce qui concerne ce sujet. Moi, je tiens beaucoup à essayer de mettre en perspective les chiffres qu'on voit et les résultats. Mais là encore, comme pour l'autre sujet, je pense que ça mérite de comparer les choses par rapport à il y a quelques années. Où est-ce qu'on en était ? Vous voyez, pour pouvoir donner un avis sur ce qui se passe, il faudrait voir l'évolution. On en était où il y a 20 ans, il y a 30 ans ? On manque parfois de données hein, sur ce genre de choses, parce qu'on ne mesurait pas exactement les mêmes choses à une certaine époque. On n'avait pas la même population, etc. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, plutôt que d'avoir le chiffre comme ça brut, qui finalement ne nous dit pas grand-chose de la réalité de la situation.
Peut-être un mot sur à la fois ce débat suscité, mais il y en aura d'autres, et puis l'actualité chasse l'actualité, le commanditaire même du sondage et le fait, au-delà de la sonance ou de la rime, certains parlent d'une dangereuse islamisation et d'autres parlent d'une acceptable stigmatisation.
Oui, vous voyez, moi je pense qu'il faut alimenter le débat intellectuel. Et je pense que que tout le monde, mais en particulier ceux qui se prétendent intellectuels ou les chercheurs ou les autres, puissent mettre des idées sur la table sur le terrain intellectuel. À partir de faits, à partir d'études, à partir de chiffres. Moi, je trouve ça sain que on pense pas la même chose, mais je veux juste que ce soit documenté. Que quelqu'un vienne infirmer, moi, ma thèse, quand je parle de la fatigue des trop sourds prêts à croire, un chercheur qui me dit, non, mais là, on n'y est pas. Moi, dans mon étude, je trouve autre chose, donc j'infirme tes hypothèses. J'ai aucun problème avec ça. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, on confond un petit peu tout. La recherche, c'est beaucoup idéologisé. C'est comme s'il fallait forcément appartenir à une chapelle. On se jette un peu des anathèmes et on en oublie parfois le sérieux scientifique. Je trouve qu'on a besoin de ça et qu'il faut répondre sur le terrain intellectuel. Quel que soit ce qu'on pense derrière, répondons sur le terrain intellectuel. On a la chance de pouvoir le faire en réalité. Quelqu'un qui travaille, qui peut le faire sérieusement, a les moyens de le faire ici. Ce que je trouve dommage, c'est que justement, on le fasse de moins en moins, qu'on se jette des choses comme ça, très superficielles, et qu'après on se retrouve avec juste des positions de bar, quoi, de comptoir, sans que ce soit sérieux, sans que ce soit documenté, prouvé.
Et comme tout texte, et a fortiori ici ce sont plutôt des chiffres, on les ploie, on les plie, on les triture pour qu'il aille dans le sens souhaité. Pour revenir à la question qui, encore une fois, est inflammable, problématique, le mot lui-même, le mot comburant, la charia, qui nécessite d'ailleurs des émissions et des explications. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'est pas mis en avant dans les commentaires que 47%, on peut toujours dire que c'est très peu, mais 47% ne souhaitent en aucun cas et d'aucune manière appliquer cette fameuse charia en France.
Oui, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Il y a ça également. Vous voyez, ça dépend de comment on regarde les choses, quelle vision on souhaite porter. C'est vrai. Et après, ça se trouve, si on serait rentré avec davantage de détails en essayant d'énumérer ce qu'on appelle charia, on aurait des résultats tout à fait différents. Peut-être qu'il y aura des choses qui nous auraient beaucoup inquiétés et d'autres pas du tout. On ne sait pas. Mais avec des termes aussi génériques, aussi peu définis, franchement, et qu'est-ce qu'on peut en
avec
faire ?
Avec cette idée, elle est un peu provocatrice dans ma bouche, c'est que les pays qui appliqueraient le conditionnel atténue les propos, le mieux la charia, sont... où seraient la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les pays scandinaves, etc. En revanche, ceux qui sont relégués en fin de tableau sont l'Arabie Saoudite, la Malaisie ou que sais-je, les dictatures du monde arabe, etc. Parce que cette charia... je ne suis pas en train de faire l'apologie de de la charia, mais parce qu'avec la confusion entre le fiqh, qui est le droit dit savant d'interprétation de cette norme religieuse qu'est la charia, assure la liberté de conscience, le droit de propriété, ce que le droit positif consacre par la suite.
Et oui, mais voyez là, ce que vous venez de définir, là, j'avais effectivement vu ça aussi, ça a beaucoup circulé à un moment donné même chez les jeunes musulmans, avec un classement comme ça, qui disait, regardez, le pays le plus proche de la charia, eh bien, c'est la Nouvelle-Zélande, etc. Et ça, ça prouve bien qu'on a une difficulté de définition. Comment est-ce que le jeune, face à cette question, a répondu? À quoi est-ce qu'il pensait? Est-ce qu'il pensait à ce que pensaient peut-être les sondeurs? C'est-à-dire, je dois couper le bras de celui qui vole, ou est-ce qu'il pensait à ce qu'on vient de se dire?
Ou lapider la femme adultère.
Exactement. Est-ce qu'on parle de
ça? C'est ce que fait malheureusement le régime des talibans.
Mais bien sûr, mais je veux dire, voilà. Mais encore une fois, si ça se trouve, en posant cette question de manière directe, on aurait trouvé qu'il y a 30% des jeunes qui pensent que c'est bien. Et on aurait dit quoi? On aurait dit, oulala, c'est inquiétant, il faut qu'on le voit. Oui, moi, je suis pas du tout pour qu'on ferme les yeux. Si c'est le cas, allons-y. Mais on peut pas le dire à travers cette question. C'est ça le sujet.
Selon vous, Tariq Yildiz, la réaction d'une manière générale des citoyens musulmans et des résidents musulmans en France devant la récurrence de ce type de sondage et puis de ce type de polémique, c'est quoi? C'est l'indifférence, la consternation, la lassitude, la colère.
Je pense qu'il y a une partie qui a été totalement indifférente parce que qui est pas dans les médias traditionnels et qui a assez peu vu ce qu'on en a fait, ce qu'on a dit. Il y a une autre partie qui est dans une forme de lassitude en se disant on va encore parler de ça, on va être au cœur des médias, on va parler de tout ça. Voilà. Donc bon, on a un petit peu de tout finalement. C'est des citoyens un petit peu comme les autres autour de ces questions-là. Hein. Mais c'est vrai.
Et le taux de religiosité, si je puis utiliser le terme, dans les autres traditions religieuses, sont du même ordre ou, comme le dit l'IFOP sondage, sont un peu plus exacerbés dans le cas islamique?
Oui, dans le cas islamique, c'est un peu plus exacerbé, même beaucoup plus. Mais il faut noter que cette résurgence un peu du phénomène religieux existe, y compris dans d'autres religions. Hein. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Voilà. Après, attention, le côté intransigeance et le fait de refuser d'avoir des liens avec les autres membres de la société, ça, oui, on a une spécificité qui est mise en lumière dans ce sondage et qu'il faut bien garder en face. Mais sur le retour du religieux, on a beaucoup parlé des protestants évangéliques, mais il n'y a pas que ce mouvement-là. Hein. Sur le retour de la pratique, on le voit, une dimension identitaire de plus en plus forte et qu'il faut pouvoir analyser également.
Bien. Alors, comme nous arrivons au terme de l'émission, je vous remercie infiniment, Tariq Yildiz, d'être venu nous parler d'une manière objective, apaisée, sereine, de ce qui a fait polémique il y a quelque temps. Et nous ne voulions pas laisser passer ça sans donner quelques explications, ou du moins la possibilité d'une autre lecture des mêmes chiffres. Donc tout est une question d'interprétation. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez l'émission, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture, et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son est assurée aujourd'hui par Julien Douminck. Et la réalisation est assumée par l'ami François Connac.